a mal débuté, on te promet un sourire en cette fin de journée. Au menu, critiques culturelles, vie universitaire, santé mentale et une bonne séance de jasette. Les vendredis à 14h, dès qu'on presse avant le week-end et serait un petit cocktail, après tout, it's 5 o'clock somewhere.
Curieux de revenir à l'époque où il y avait de la flûte partout?
Venez nous rejoindre à Recyc Prog pour une super sélection de chansons rock progressives à découvrir et redécouvrir.
On se retrouve tous les jeudis à 14h à Chiz 94.3.
The following program is a disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre planète et stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3 en compagnie de vos animateurs Lucie et Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine.
Salut Lucie, comment ça va?
Bien et toi?
Oui, merci.
Ce soir à l'émission, nous avons le privilège de recevoir Sylvain Lombroso pour nous parler d'espionnage communiste au Québec. Monsieur Lombroso est journaliste spécialisé dans l'histoire des sciences. Il a récemment publié son article « La formule secrète du professeur Boyer » dans le numéro spécial de la revue Capodiamant intitulé « Le Québec, ni d'espion communiste » qui inspire notre émission de ce soir. Bonsoir Monsieur Lombroso.
Bonsoir.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'espionnage communiste au Québec?
Bien sûr. Souvent, je travaille pour le magazine Québec Science. Et en fait, j'ai rencontré un auteur via les éditions du Septentrion, un auteur qui s'appelle Gilles Sabourin, qui est un ingénieur spécialisé dans le nucléaire. Et lui, il s'intéressait particulièrement à l'histoire du laboratoire nucléaire qui était, pendant la Seconde Guerre mondiale, un projet anglais qui visait à fabriquer une bombe nucléaire et fabriquer de l'énergie nucléaire. Et en liaison aussi avec le projet Manhattan, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, en tant que journaliste, j'ai accompagné Gilles pour un peu approfondir son enquête avec des interlocuteurs en Europe, donc des survivants ou des descendants de physiciens qui avaient été dans ce laboratoire secret à l'Université de Montréal. Et je l'ai aidé à un peu écrire certains passages, à faire l'enquête. C'était un véritable travail de collaboration qui était très agréable, très intéressant. J'ai plongé dans ce sujet-là et j'ai découvert qu'en fait, le laboratoire était espionné de toutes parts par des différents scientifiques qui en fait travaillaient pour les soviétiques en sous-main. Et donc, je suis tombé là-dedans parce que quand le livre est sorti, en fait, il y a... la veuve d'un des condamnés de l'affaire Goujenko qui m'a contacté parce que elle avait des cartons d'archives de son époux décédé et elle souhaitait finalement que quelqu'un fouille dans ses papiers pour en faire un article, un magazine, enfin quelque chose. Elle avait envie que ça passe à la postérité, donc elle m'a contacté et c'est comme ça que en fait je suis rentré dans le sujet de l'affaire Goujenko, c'est à travers les archives de Raymond Boyer.
Et oui, parlons-en justement de l'affaire Goujenko, qui est en fait un épisode clé du déclenchement de la guerre froide. Pouvez-vous nous expliquer qui est tout d'abord Igor Goujenko et comment cette affaire commence?
Alors, effectivement, on a déjà une première chose, c'est que au départ, vous le savez, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, les Russes collaborent avec les nazis, puisqu'il y a le fameux pacte Ribbentrop-Molotov, oui. Signé sous le regard de Staline. Les Allemands et les Russes sont censés se partager l'Europe, n'est-ce pas? Et ça ne va pas se passer exactement comme ça.
Non, pas tout à fait.
En juin 1941, il y a l'opération Barberousse. Donc là, ben, finalement, donc au début, les Russes sont les ennemis des alliés, enfin donc du Canada, de l'Angleterre, de la France. Et là, tout d'un coup, ben, ils vont basculer dans l'autre camp, malgré eux, n'est-ce pas, puisque les chars nazis déferlent dans leur propre pays. Ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe, c'est que les Russes devenant alliés du Canada, le Canada propose aux Russes d'ouvrir une représentation diplomatique à Ottawa, qui deviendra après une ambassade. Là, les Russes, ben, tout simplement, ils vont envoyer des vrais diplomates, puis d'autres qui sont des faux diplomates, qui sont là pour espionner et qui travaillent pour les services secrets. Et donc Igor Ouzhenko, lui, c'est au départ, il a fait des études d'architecture, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Mais il a appris, en fait, au début de la Seconde Guerre mondiale, il a été formé à la cryptographie, donc le fait d'encoder et de déchiffrer des messages. Il a été recruté par le GRU, quoi, les services secrets militaires des soviétiques. Et en fait, il va être affecté à l'ambassade d'Ottawa avec Nikolai Zabotine, qui est un des protagonistes de cette affaire. Et lui, en fait, ils vont arriver en 43. Et de 43 à 45, ils vont vraiment entretenir un grand réseau d'espionnage. Et lui, Ouzhenko, il est particulièrement affecté à chiffrer et à déchiffrer les documents pour les transmettre à Moscou, pour qu'il y ait des communications. Toutes les infos qu'ils arrivent à agréger ici, il les renvoie à Moscou. Moscou leur renvoie des ordres de mission. Donc tout ça est crypté. Et Ouzhenko, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va apprendre qu'il doit retourner à Moscou plutôt que prévu.
Okay.
Et ça, dans sa tête, ben, ça peut vouloir dire qu'il va se retrouver au goulag.
Ah.
Ce qui n'est pas une très belle perspective.
Non, pas tout à fait.
On en convient. Et alors, il va se dire, ben, bon, peut-être que je devrais... En plus, il voit que la vie au Canada, en fait, ben, ce n'est pas exactement comme on lui avait expliqué à l'école, que ça a l'air beaucoup plus ouvert, que lui, il vient d'un pays totalitaire, où il n'y a pas beaucoup de liberté, où on vit assez mal. Et là, il est au Canada, où ça se passe beaucoup mieux. Et donc là, il construit le projet avec son épouse, qui est venue avec lui. De faire défection, mais il se dit, pour que je sois accueilli sauveur, et qu'on me sauve des griffes, parce qu'il sait très bien que s'il se fait attraper, il va mourir. Donc il se dit, ben, je vais partir avec des preuves de ce que je vais avancer. Donc je vais collecter des documents qu'on m'a demandé de chiffrer, je vais les mettre dans une pochette, et un soir je vais partir avec, et je vais courir dans un journal à Ottawa, et c'est sûr qu'on va m'accueillir pour sauveur, et qu'on va publier ces documents, ça va être génial, et je vais pouvoir certainement avoir l'asile politique au Canada. Un manque de bol, quand il arrive à l'Ottawa Journal, on lui dit, mais non, mais ça ne nous intéresse pas du tout, votre histoire. Donc là, c'est le soir, il vient de quitter l'ambassade, là, il ne se sent pas très bien, il va aller aussi au ministère de la Justice. Là, même accueil froid, donc on lui dit non, mais en fait, personne ne croit vraiment à cette histoire. Les gens sont dubitatifs, ces documents, ça paraît bizarre. Que les soviétiques qui sont des alliés se mettent à espionner le Canada, ça paraît complètement fou. La plupart des gens ne savent même pas qu'il y a un laboratoire nucléaire à l'Université de Montréal. Ils ne connaissent pas les projets militaires secrets, donc ils se disent pourquoi les Russes, ils nous espionneraient, ça n'a aucun sens. Il rentre chez lui, il se passe plein de choses, mais finalement, comme évidemment les Russes vont venir dans son appartement pour le récupérer et le tuer, en fait lui il s'est réfugié chez ses voisins, et par chance il va échapper à la mort, et les Russes vont pas l'attraper, et là la police et puis ensuite la GRC vont le récupérer, parce qu'ils ont vu que oui, en fait il y avait vraiment un danger. Si les Russes mettaient autant de moyens pour le récupérer, c'est qu'il y avait quelque chose d'intéressant là.
L'affaire va ensuite prendre une toute autre dimension en février 1946, après qu'un chroniqueur américain ait révélé la défection de Ouzhenko. Comment s'explique cette fuite?
Alors, c'est très nébuleux, évidemment, parce que donc, c'est Drew Pearson. Donc, lui, il va révéler sur les ondes à la radio qu'il y a une affaire énorme d'espionnage, qu'en fait, les Russes sont très infiltrés partout au Canada, et qu'il voilà, y a un grand danger communiste. Bon, évidemment, le public est très sensible à ce danger-là. Donc, comment Drew Pearson est tombé là-dessus? On peut se douter qu'il a été mis au courant par des hommes politiques, certainement, qui voulaient obtenir quelque chose. Alors, donc lui, c'est un Américain, on l'a dit. Qui sont les personnes potentiellement susceptibles de faire ça? On peut penser évidemment à Hoover, le directeur du FBI, qui aurait intérêt, lui, à faire en sorte que l'affaire soit mise sur la place publique. pour qu'on voit qu'il y a un véritable danger communiste, que lui, ça va l'aider derrière à appuyer pour lui-même faire la chasse aux espions dans son propre pays, parce qu'il sait qu'il est infiltré également. Puis c'est toujours plus agréable pour les Américains de dire « Ah bah regardez, au Canada, ça se passe mal, vous voyez ». C'est donc attirer l'attention sur le Canada plutôt que chez eux, parce qu'eux savent qu'il y a un problème et que ça leur évite de le révéler eux-mêmes. Et puis sinon, ça peut être évidemment les Anglais, parce que les Anglais, ils savent également que il y a des scientifiques anglais qui ont travaillé avec les Soviétiques, notamment des scientifiques très haut placés, qui avaient accès à toutes les informations secrètes. Donc là, les Anglais se disent « Bon, ça serait pas mal que le Canada nettoie son affaire, parce que nous, pendant ça, ça va nous aider en coulisses à régler, à retrouver... » Ils étaient censés, les Anglais, avoir regardé tous les dossiers de tous leurs scientifiques. Il y a plusieurs documents qui existent où on peut voir que, pendant la guerre, tous les scientifiques qui étaient envoyés à l'Université de Montréal pour travailler sur le projet nucléaire étaient censés être complètement blancs, aucun lien avec quelconque politique. Bon...
Donc... C'est quand même étonnant qu'il a fallu forcer un peu la main du gouvernement canadien par des coulages pour qu'il intervienne. Et justement, à la suite de ces révélations-là, on va obliger Ottawa à réagir. Le 5 février 1946, Mackenzie King met sur pied la commission royale Kellogg-Taschereau pour enquêter en fait sur l'affaire. Pouvez-vous nous parler un peu de cette commission? En fait, quels sont ses objectifs et ouais. Quels sont les résultats?
Alors en fait, c'est vrai, c'est intéressant ce que vous avez dit. Mackenzie King, lui, en fait, il est assez frileux au départ. Lui, en fait, au départ, il se dit « mais je veux pas avoir de mauvaises relations avec Staline, quoi. C'est un allié, je veux pas... »
Ouais, enterrer l'affaire un peu.
Ouais, c'est ça. Donc lui, il se dit « bon, allez, on va mettre ça sous le tapis, hein. Ça, c'est quand même important de le savoir. » Et puis, dans son journal qu'on peut consulter sur BAC, là, le site des archives canadiennes, je vous conseille de le faire, c'est extraordinaire. Donc il y a des milliers de pages, hein. Vous savez, Mackenzie King, il avait son secrétaire et puis il faisait taper tous les soirs de sa vie des pages de ce qu'il avait fait dans la journée, ses réflexions. Il avait demandé qu'on les détruise à sa mort, mais ça n'a pas été fait, donc elles sont accessibles si vous pouvez les lire. Et donc notamment sur Goujenko, là il dit qu'il pense que ça vient que la fuite vient des Américains, que les Américains veulent le précipiter dans cette affaire, alors que lui c'est pas ça qu'il voudrait faire, que de toute façon il pense que tous les membres du réseau d'espionnage, de toute façon ils échapperont à la justice parce que les preuves sont apportées, on a volé des documents, donc on peut pas incriminer des gens grâce à ces documents-là. Bref. En tout cas, l'idée, c'est que Mackenzie King va de toute façon faire cette commission d'enquête. Il choisit deux juges de la Cour suprême. Et puis là, il met le paquet, comme il a la pression des Américains et des Anglais. Donc là, ils vont supprimer l'habeas corpus. Les gens vont les premiers à se faire arrêter en février 46. On va les enfermer dans une caserne désaffectée près d'Ottawa. Ils savent pas au départ pourquoi ils sont là. Ils sont ils sont placés à l'isolement. Ils ont pas de livres, ils ont rien. Pas d'avocat, pas de contact avec les familles, donc c'est des conditions quand même assez sévères, on va dire. Oui. Et donc la commission, elle est chargée de... En fait, elle a les documents, ils sont traduits au fur et à mesure. Donc là, on voit que vraiment, effectivement, il y avait des communications avec Moscou qui laissent penser qu'il y avait des véritables espions, que des vraies infos militaires ont été volées, que toutes sortes d'informations, que c'est un panier percé, quoi. À la fois le laboratoire de Montréal, mais aussi des usines d'armement à Montréal et dans le Québec. Tous les projets, en fait, étaient suivis dès le début par les Soviétiques.
Ça coulait partout. Un vrai nid d'espions communistes.
Là, il y en avait vraiment partout. Et donc, cette commission-là, elle a interrogé les protagonistes du réseau d'espions pendant des semaines et des semaines sans avocat. Elle les a cuisinés. La plupart ont réussi à esquiver. D'autres ont plutôt lâché du lest et ont donné des informations. Donc à la fin, la commission elle va pondre un rapport que vous pouvez, qui est aussi accessible sur Internet, qui est passionnant, c'est en anglais, qui montre qu'effectivement, donc tous les documents, tous les documents sont avec des noms de code. Donc il y a Grant, le professeur, enfin c'est que des pseudonymes. Il y a le lexique pour comprendre qui est qui. Donc on peut lire ça. Donc c'est les communications de Moscou. C'est assez intéressant à lire, quoi. C'est comme c'est assez fascinant. Et donc la commission, sa conclusion, c'est oui, il y avait un réseau d'espions. Oui, on n'a rien vu et on s'est fait laisser, on s'est fait berner de A à Z. Et leur conclusion, c'est il faut que ça s'arrête. Et il faut diffuser au maximum le rapport. Ils ont tenté de le diffuser un peu partout pour qu'il y ait une prise de conscience. C'était un peu l'alarme qui sonnait partout, à la fois en Amérique du Nord et en Europe, pour dire attention, les Soviétiques vous, vous observe et vous traque. Et donc, il y a eu après ça une série de procès, mais on va en parler tout à l'heure, j'imagine.
Oui, d'ailleurs, parmi ces condamnés de l'affaire Gouzenko, il y a le chimiste montréalais Raymond Boyer. Comment il est impliqué avec l'URSS?
Alors, Raymond Boyer. Alors, lui, c'est un des seuls Canadiens français qui est dans le réseau. C'est un personnage qui c'est vraiment donc c'est un Québécois qui est issu d'une famille très bourgeoise, mais c'est quelqu'un qui va s'intéresser très tôt, disons à la révolution qu'il y a eu en Russie. Lui, donc très tôt, il va faire des études, il fait des études brillantissimes, donc à McGill, après il va à Harvard, il va aller en Europe, en Autriche, à Paris, et puis là à chaque fois, il essaie d'apprendre le russe. Il s'intéresse vraiment à l'Europe de l'Est. Et il va d'ailleurs voyager là-bas. Et lui, son idée, c'est que, il a vraiment envie d'en savoir plus. Quand il est en Autriche en 1936, il va voir le combat entre le fascisme et le communisme aux premières loges. Son cœur va pencher évidemment plus pour le socialisme, et on le comprend aussi parce que évidemment les nazis, c'était vraiment terrible ce qu'ils ont fait en Autriche. Et donc lui, quand il va rentrer au Québec, il va penser que certains mots de la société européenne se retrouvent finalement au Québec. Il y a aussi des fascistes au Québec. Il y a aussi le Québec est traversé par certains courants qu'il a déjà vu en Europe. Il a peur du résultat. Et donc, il va rentrer dans des milieux très proches des soviétiques, donc des gens qui animent le Parti communiste canadien, des gens qui essaient de répandre le marxisme au Canada, et particulièrement à Montréal. Il va fréquenter, par exemple, Ryerson, qui est un des grands noms du communisme au Canada. Et donc, petit à petit, il va être amené vers cette idéologie-là. Et ensuite, il va épouser une personne de confession juive. Il va se convertir pour ça. Et il va rencontrer Fred Rose, qui est un des autres personnages très importants, qui est donc un homme politique, qui était le seul député fédéral communiste de l'histoire du Canada. Ouais. Et donc, c'est via Fred Rose aussi que va s'opérer sa mue, et que Fred Rose va le solliciter pour lui demander des informations, parce que Raymond Boyer travaille à McGill et à l'Université de Toronto sur un projet secret d'un explosif extrêmement puissant qui s'appelle le RDX, qui est la suite du TNT. Et en fait, au Canada, il y avait des labos de recherche, aux États-Unis aussi, qui visaient à pouvoir utiliser cet explosif beaucoup plus puissant que le TNT pour gagner la guerre. Donc c'était vraiment un programme d'une arme conventionnelle très puissante qui pouvait changer la donne pour les Alliés. Donc Raymond Boyer travaillait là-dessus. Forcément, c'est un programme qui intéressait fortement l'URSS, qui n'avait pas le RDX.
Et justement, on parle de Fred Rose à travers l'article de Pierre Anctil, votre collègue. On en apprend davantage sur les origines de cet homme. Comment son enfance, son milieu de vie peut être associé justement à son implication en tant qu'informateur communiste? Qu'en est-il notamment de l'école Lénine, en fait?
Alors Fred Rose, donc il vient de Pologne, ce qui est la Pologne, c'est dans l'Empire russe à l'époque, c'est un pays, enfin dans l'Empire russe, il y a ce qu'on, vous le savez, donc il est juif, il y a des pogroms en fait dans l'Empire russe. Les juifs ont un statut très particulier, ils sont souvent dans les bas-fonds des classes sociales, et ils sont rejetés, ils sont regroupés dans des villes. Et y a des pogroms où là, c'est carrément des descentes de foules qui vont les tuer, qui vont les massacrer, femmes, enfants, enfin bon, un peu des choses très dures. Et évidemment, beaucoup de ces gens vont chercher à fuir. On les comprend. Et Fred Rose va se retrouver comme ça. Il va suivre ses parents qui vont arriver à Montréal en 1920, donc avec toute la famille. Et puis, il y a vraiment une immigration d'Europe centrale à l'époque à Montréal, et ils vont se retrouver autour de la voie Saint-Laurent, là. Enfin, et donc, il y a évidemment un engouement politique pour toutes les idées. Sachant que les juifs, pour eux, en fait, ce qui se passe, c'est que eux, les pogroms, tout ça, ils pensent que les communistes sont plutôt favorables aux juifs. et que c'est vraiment c'est la suite du tsar, et que justement le tsar, où là où il y avait dans l'empire tsariste il y avait des massacres de juifs, là cette fois les communistes vont radicalement changer la donne. Ils croient en ça, ils pensent que vraiment le communisme, bah, il faut s'impliquer dedans, parce que c'est une bonne voie pour les juifs d'Europe de l'Est. Bon, ils vont découvrir beaucoup plus tard qu'ils se sont vraiment trompés, hélas. Mais en tout cas, à l'époque, c'est ça qui va pousser Rose, on va dire, dans les bras des soviétiques, parce que il se dit que c'est une alternative pour sauver son peuple, tout simplement.
C'est un espoir.
C'est un espoir, oui. Bon.
Et justement, qu'en est-il de l'implication en fait de Fred Rose dans l'affaire Goujenko?
Ouais. Vous avez parlé de l'école Lénine tout à l'heure, et je veux rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, ce que font les soviétiques, c'est qu'ils ont cette école à Moscou où ils font venir des intellectuels, des hommes politiques, puis des jeunes qui font former aux techniques d'espionnage finalement. Et donc Fred Rose, qui était un des talents qu'ils avaient repéré par son activisme, ils l'ont envoyé à Moscou étudier dans cette école pour savoir comment on espionnait finalement.
Mais comment, en fait, quelle technique d'espionnage qu'ils pouvaient apprendre dans cette école-là?
Dans cette école-là, on apprenait à qu'est-ce qu'il fallait dire ou pas dire en société, qu'est-ce qu'il fallait, par exemple, quelles étaient la façon dont on conduisait une politique, comment on pouvait utiliser des associations, des regroupements syndicaux, par exemple, pour manipuler les gens, avoir une belle image, des choses pas forcément glorieuses. Mais dans cette école-là, sont passés, Pierre Anquetil en parle dans le magazine, sont passés des noms extrêmement brillants comme Tito, qui sera le futur chef de la Yougoslavie. Il y a, je crois, Heinrich Honecker. Vraiment, toute l'intelligentsia qui va après diriger l'Europe est passée par cette école. Donc Fred Rose, s'il a été là-bas, c'est qu'il a été repéré comme un énorme potentiel. Donc, ça attire quand même le regard sur lui. On se dit, il était vraiment un envoyé de confiance de Moscou.
Oui, oui. Et justement, en fait, juste pour venir à l'affaire Goujenko, justement, avec Fred Rose, comment était-il impliqué concrètement?
Concrètement, lui, comme il était député, il avait accès à plein d'infos grâce à l'Assemblée. Donc ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il avait, on va dire, une certaine aura chez les femmes. Il utilisait ses techniques de séduction auprès des femmes pour obtenir, pour en manipuler certaines, pour envoyer certaines femmes, justement, récupérer d'autres infos. On va parler d'une de ces espionnes-là, qui était sa maîtresse. Donc lui, il va participer à des rassemblements de charité, et en gros il va à chaque fois réussir à obtenir beaucoup d'infos via ça. Il y avait son pendant à Toronto, ils étaient deux en fait, il y avait Fred Rose à Montréal et il y a un autre homme qui s'appelle Sam Carr qui était à Toronto et qui faisait exactement la même chose, c'est-à-dire aller dans la bonne société, récupérer, avoir dressé des belles connexions, mettre les gens en confiance pour qu'ils donnent des infos, repérer toutes les gens qui avaient des sensibilités marxistes et les faire travailler en sous-main comme des éléments clés dans la société qui allaient disperser la bonne parole et qui allaient agréger de l'info pour Moscou.
Ok, excellent. Puis justement, après la commission en fait, qu'on a parlé tout à l'heure, la commission mise sous pied par Mackenzie King, qu'est-ce qui advient de Fred Rose?
Fred Rose, il va y avoir son procès. Le Raymond Boyer, en fait, ses interrogatoires, lui, en fait, il avait choisi de dire un peu une partie de la vérité, en fait. Donc, en fait, il a quelque part, sans le vouloir, je pense, un peu grillé Fred Rose. C'est-à-dire qu'il a dit, Fred Rose, je lui ai donné telle et telle info à tel moment. Voici les infos qui sont remontées à Moscou. Donc, il a été assez transparent, Raymond Boyer, parce que c'est une personne très honnête. Et en fait, Fred Rose, quand il arrive à son procès, c'était un carnage, parce que tout était là. Et puis, en plus, vraiment, il y avait une détestation des communistes. Donc, il avait aucune chance, quoi. Donc, il s'est retrouvé condamné, il s'est retrouvé au pénitencier. Et puis par la suite, ça va très mal finir pour lui parce que il va retourner en Europe et il va même être déchu de la nationalité canadienne. Donc c'est quelque chose de très fort. Il a jamais pu revenir au Canada. Il est mort là-bas dans des conditions assez difficiles. Il était devenu un petit fonctionnaire de l'URSS, quoi. Et en fait, on peut considérer que l'URSS l'a lâché complètement et qu'ils l'ont pas soutenu. Donc c'est un homme qui a vraiment mal fini. Ouais.
Vous parliez aussi du pouvoir séducteur de Fred Rose. Ouais. On sait qu'il y avait une relation avec Freda Linton, qui est une Montréalaise.
Ouais.
Quel type de relation ils entretenaient, justement?
Ben, en fait, bon, c'est, évidemment, on n'a pas de preuves de leur, du fait qu'ils étaient amants, mais on a des faisceaux de présomptions, notamment, en fait, dans un des dossiers qu'on a trouvé aux archives anglaises des services secrets, en fait, on voit que Freda Linton, en fait, allait souvent dans l'appartement de Fred Rose à Ottawa, qui avait ça pour, parce qu'il était, il siégeait à l'Assemblée. Et on sait que Freda Linton agissait pour lui comme d'une messagère, c'est-à-dire qu'elle allait voir des personnes pour leur proposer des collaborations, pour récupérer des documents, pour elle voyageait puisqu'elle est, on la considérait comme une secrétaire, donc elle passait inaperçue. On disait bon, bah, c'est cette femme-là, c'est sans danger. Et en fait, bon, bah, elle récupérait plein de choses. Et donc ils étaient très liés. Elle était assez belle aussi. Et puis bon, comme je vous l'ai dit, Fred Rose était assez coureur, donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a aussi un livre qui parle de leur relation. Donc c'était vraiment une de ces messagères stratégiques, quoi.
Excellent, donc nous en sommes déjà à notre première pause publicitaire, mais juste avant de se quitter, allons-y avec un extrait de l'entrevue de Igor Gouzenko, justement à l'émission de D, présentée sur les ondes de la CBC. Donc, dans cet extrait, M. Gouzenko explique pourquoi, même plusieurs années après cette affaire, il craint encore pour sa vie et pourquoi il porte toujours un masque lors de ses apparitions publiques. Donc, bonne écoute.
That's right. That's precisely what it is. And it was suggested officially to Canadian government and to United States government. And it...
Well, sir, this raises the point. You sit opposite me wearing a mask.
Yes.
You certainly don't suggest that coming to our side is attractive if after 25 years in this country it's necessary for you to wear a mask on Canadian television.
Well,
this is hardly a normal life.
Well, it's usually just when I live under different name, I'm, of course, you understand, I'm without mask, so there is no handicap in that respect. But this is just one of the precautions which is necessary, because there are field days again.
Do you believe that if you stopped appearing on television in a mask, if your face was to be exposed now on this program, that your life would be in danger?
Oh, yes, definitely.
Mr. Gouzenko, are you suggesting that Soviet intelligence, in all the time that it's had since you defected, has not been able to trace you down, that they don't know exactly where you are and what you look like and where you live and what name you travel under and what your wife looks like and what your children look like and where they go to school and, in fact, every detail of your life?
Well, I assume they know, and that's why I'm 100 times even more careful. I assume it. But I won't put my head and say that definitely they know or something. I assume, yes. And then I act more careful.
Do you still think that the Soviet espionage apparatus would like to kill you?
Well, I have no slightest doubt about that.
Vous écoutez CHIS 94.3 FM, Québec.
Curieux de revenir à l'époque où il y avait de la flûte partout?
Venez nous rejoindre à Recyc Prog pour une super sélection de chansons rock progressives à découvrir et redécouvrir.
On se retrouve tous les jeudis à 14h à CHIS 94.3.
Envie d'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et CHIS 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le chiz.ca et en balado-diffusion.
Cet hiver, Guillaume Bédard et son équipe sont de retour pour t'éclairer sur tous les sujets qui te touchent et te préoccupent.
Un phare dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre.
Tous les jours en semaine dès midi, écoute Chiz 94.3.
Avide de découvertes? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
We'll be right back.
Nous sommes de retour sur les ondes de CHIS 94.3 pour poursuivre notre émission avec notre invité Sylvain Lombroso qui nous parle d'espionnage communiste au Québec et des répercussions de l'affaire Goujenko en 1946. Avant la pause, nous avons parlé notamment de Freda Linton, qui est une des rares femmes qui est accusée d'espionnage dans l'affaire Goujenko. Linton va elle-même se livrer à la Gendarmerie royale du Canada après 3 ans à vivre dans la clandestinité après son mandat d'arrestation. Qui est cette espionne extrêmement discrète?
Oui. Alors, en fait, c'est une Montréalaise hein, qui est d'origine juive également, qui vient aussi de Pologne, comme Fred Rose. Elle, pareil, donc elle a développé des sympathies pour le Parti communiste. Donc, elle a même été membre pendant un temps. Elle va être repérée, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que elle vient d'Europe centrale. Elle parle l'hébreu, elle parle l'anglais. Elle présente pas mal de qualités pour une espionne. Donc là, les soviétiques vont la repérer, la former, elle va être donc secrétaire dans des organismes où elle va côtoyer des fonctionnaires assez haut placés. Donc c'est le Bureau international du travail, c'est l'Office national du film à Ottawa. Elle va aussi faire un passage à Washington, donc ça tombe super bien parce que une fois qu'elle est à Washington, en fait Fred Rose lui demande d'aller voir des scientifiques pour essayer de les faire rejoindre le réseau. Cette Freda Linton là, elle est discrète parce que à l'époque, ouais, comme j'ai un peu évoqué, on peut pas soupçonner qu'une femme qui soit juste secrétaire, soit une espionne, la seule des soviétiques. Donc elle passe un peu partout et puis en plus elle a des bonnes relations sociales, elle s'affiche souvent avec Fred Rose dans des dîners en ville, notamment des dîners de charité, des choses comme ça. On voit qu'on la soupçonne pas, qu'elle va être très efficace. Elle va fuir aux États-Unis comme Sam Carr d'ailleurs. Elle va se retrouver là-bas et elle va se remarier. Et en fait, ça va être assez fou ce qui va se passer, c'est que le FBI, comme ils ont pas de preuves contre elle pour l'extrader au Canada, en fait, ils vont aller voir son mari en lui disant, son mari sait absolument pas qui elle est, hein. Et donc c'est un marin, donc il a pas vraiment compris qui était Freda Linton, sa propre épouse, et ils vont lui dire, vous êtes marié à une espionne communiste.
Ok, il savait pas du tout.
Pas du tout,
zéro. Douche froide.
Douche froide, et alors il va très mal réagir, et il va la quitter, et elle va se retrouver seule. C'est pour ça qu'elle revient en fait à Montréal, parce qu'en fait elle est enceinte en plus. C'est assez terrible. Et aux États-Unis, elle est persona non grata et son mari veut plus la voir. C'est terrible. Hein. Et donc, elle va se livrer. Et puis, comme elle va arriver un peu après toute cette affaire, le Canada a envie de lessiver cette histoire. Donc, elle va pas être condamnée, en fait, finalement. Elle va être complètement blanchie. Alors que, c'est facile de retrouver des preuves contre elle. Hein, mais il faut passer à autre chose. Et donc, elle va être blanchie et elle va... Par la suite, connaître encore d'autres problèmes, parce qu'elle va retourner aux États-Unis pour divorcer. Et cette fois, comme elle a plus d'argent, elle va travailler dans un resto. Là, la police va venir. Elle est sans papier, elle travaille. Elle a en plus oublié de préciser qu'elle avait été communiste. Elle va aller en prison. Finalement, elle va finir ses jours au Canada. Et ce que j'ai trouvé vraiment extrêmement. À la fois touchant et saisissant, c'est que dans un des livres là, écrit par David Levy, qui est un excellent livre, parce que David Levy a beaucoup étudié Fred Rose. Alors, c'est des livres en anglais, mais c'est vraiment extraordinaire à lire. Et Freda Linton, à la fin de sa vie, serait dit, quelque part, ma vie est un échec et je me suis laissé berner par l'URSS. Là où je pensais défendre la classe ouvrière, en fait, je défendais un régime totalitaire. Et donc, c'est quand même assez dur quand on lit ça, quoi.
Qu'est-ce que nous révèle le cas de Freda Linton sur la place des femmes dans les réseaux d'espionnage communiste?
C'est qu'ils utilisaient leur charme et leur capacité à s'infiltrer partout parce qu'on ne les repérait pas. Il y a plein d'autres exemples. Ursula Kuczynski, Elizabeth Bentley. Pareil, c'est des femmes très jolies, qui avaient des capacités sociales très affirmées et qui ont été au service des soviétiques. Il y a aussi Léontine Cohen, enfin il y en a beaucoup. Stéphanie Cabre, la journaliste qui a rédigé le papier sur Freda Linton, qui a mené l'enquête, elle a fait pas mal de comparaisons avec ces espionnes-là, donc c'est intéressant de son article à ce titre-là.
Ouais. D'ailleurs, j'ai une question que j'avais en tête, c'est Freda Linton, on sait son implication à l'ONF, mais en fait... à quel point son infiltration dans ce réseau-là peut être utile aux communistes, en fait, c'est...
Ben, en fait, il y a John Grierson, là, qui est aussi, qui a été longtemps soupçonné aussi d'être un, donc, qui était le chef, là, qui a été longtemps soupçonné d'être un communiste, qui donnait des infos soviétiques. Ben, en fait, c'est parce qu'elle a ça, quand on travaille à l'ONF, déjà, on peut voyager facilement. Okay. On peut aller à Washington. Donc, c'est des endroits intéressants. En plus, on est invité dans plein de soirées, on fréquente la bonne société. Donc, ça permet d'accéder à des profils très, très qualifiés, en fait.
Excellent. En fait, on ne peut pas parler vraiment d'espionnage communiste sans parler un des objectifs les plus connus de ce réseau, c'est-à-dire le développement d'une arme nucléaire soviétique. L'espion Klaus Fox est un des personnages clés pour comprendre en fait l'espionnage du projet Manhattan dont vous avez mentionné l'existence tout à l'heure. Parlez-nous un peu du parcours de ce scientifique et de sa relation justement avec les soviétiques.
Alors Klaus Fuchs, ce qui est assez frappant, bon, c'est un Allemand qui est pas juif, qui est protestant, mais à ce titre-là, c'est sa famille va être, on va dire, va subir les foudres des nazis, ils vont être internés, enfin ils vont connaître beaucoup de problèmes. Klaus Fuchs est socialiste, ensuite il rentre au KPD, là le Parti communiste allemand. Donc lui, il est vraiment clairement établi comme communiste dans sa jeunesse en tant qu'étudiant. Il va devoir donc fuir évidemment son pays, fuir l'Europe. Il va se retrouver en Angleterre pour faire ses études. Bon, en plus en Angleterre, ça tombe bien, il y a des laboratoires de physique extrêmement prestigieux. Il est surdoué, c'est un génie. Et en fait, il va donc mener de brillantes études. Il est en Angleterre, tout va bien, sauf qu'il est donc allemand. Et qu'à un moment, les Anglais, quand ils sont au bord du précipice à cause des nazis, ils prennent tous les Allemands qui sont sur leur territoire, ils les mettent dans des bateaux et ils les envoient dans différents endroits, notamment à Québec.
Directement à la ville de Québec?
Ils les envoient sur les plaines d'Abraham, dans des camps insalubres. Et ensuite, ils vont en envoyer plusieurs au camp N, le camp 42 qui est à Sherbrooke. C'est une usine, une usine ferroviaire. Et en fait, donc là, ils prennent des juifs, des communistes, ils prennent bon, tous les Allemands. Ils prennent aussi des... Donc là, il y a des, comment on appelle ça, des marins de la marine marchande allemande. Donc il y a des nazis, il y a tout le monde. Et tout le monde est mis au même endroit, sans distinction. C'est les Anglais qui envoient ce contingent-là au Canada. C'est l'armée canadienne qui est censée s'en charger. Ils savent pas vraiment à qui ils ont affaire, donc ils savent pas que les Juifs mangent cachère. Bon, ils ont oublié quelques détails très importants. Ils ont oublié aussi que finalement les Juifs et les nazis, ça collait pas vraiment. Pourtant, ils les mettent tous au même endroit. Ils ont oublié aussi en plus d'amener les lits. Donc quand ils arrivent, il y a pas de lit. Enfin bon, bref, c'est un cauchemar. Donc Klaus Fuchs, qui était dans un programme de recherche finalement sur la bombe nucléaire en Angleterre, se retrouve dans des conditions terribles au Québec. Mmh. Il est maltraité. Mais là, ce qui se passe, c'est que dans ces camps-là, il y a plein de militants qui reviennent de la guerre d'Espagne.
Okay.
Et ces gens, ils ont un charisme particulier parce que ils ont fait la guerre contre le fascisme avant tout le monde. Et donc, il y en a un qui s'appelle Hans Kahle, qui est un peu le leader dans le camp, qui va essayer d'expliquer aux Canadiens ce qu'il faut faire pour mieux accueillir les gens, tout ça. Donc, il va être un peu le représentant des prisonniers. Et il va sympathiser avec Fuchs. Et puis, il va présenter à Fuchs tout un réseau de sympathisants. Donc, Fuchs, il était déjà sensibilisé au communisme. Bon, il était dans le KPD. Mais il a, il avait la haine des anglo-saxons à ce moment-là. On peut le comprendre.
Oui, un peu. Normal.
Et il va, du coup, se dire, OK, moi, c'est ça. Moi, je suis communiste. Et c'est bon, j'ai choisi mon camp. En 41, parce qu'en fait, il est soutenu par des scientifiques anglais. Qui vont réussir, parce qu'en fait, il y a une visite à un moment d'un officier anglais qui se rend compte que c'est un désastre, qu'ils ont mis les juifs avec les nazis. Bon, bref. Ils vont en rapatrier certains. En 41, Fuchs y rentre, mais dès son retour, il va. Il retourne en Angleterre. Dès son retour, il va chercher à contacter les soviétiques qu'on lui a donné comme contact, et il va leur donner toutes sortes d'informations. Lui, il va rejoindre le projet Tubeloise, donc qui est le projet des Anglais qui veut faire la bombe atomique. Au début en Angleterre, puis ensuite à Montréal. Et en fait, quand il rejoint ce projet-là, il est au courant de tout. Mmh. Parce qu'il va en plus avoir la nationalité anglaise. Là, on lui accorde tout, donc il a accès à toutes les informations, il va tout donner. Et donc, il y a, on peut les voir, bon, elles sont plus accessibles sur le web là, mais il y a des archives américaines du projet Venona, qui est un projet de décryptage des télégrammes russes. Et dans ce, on a retrouvé avec Gilles Sabourin un télégramme où on voit D41. En fait, Klaus Fuchs dit on va aller à Montréal parce qu'à Montréal il va y avoir un laboratoire secret et donc il faut absolument que vous trouviez des moyens d'envoyer des gens là-bas pour faire remonter l'info sur l'arme nucléaire. Donc ça c'est Fuchs et pour aller rapidement là-dessus, c'est que donc lui Fuchs il va donc livrer des énormes secrets vraiment pour qui vont permettre aux Russes d'avoir la bombe nucléaire bien plus tôt que ce que les Américains prévoyaient.
Quel genre de secret?
C'est des, en fait, lui, il travaille sur des formules, sur l'amorçage des bombes. Il travaille sur le plutonium. Et donc, il va leur donner toutes les compositions, les équilibres, vraiment des détails stratégiques qu'ils auraient mis des années à trouver. Parce que les Russes avaient pas. Ils avaient quelques physiciens, mais là, vraiment, les Anglais et les Américains, ils avaient réuni le gratin de l'Italie, de la France, de partout. Donc là, il y a toutes les têtes. Et donc Fuchs, en fait, il a accéléré le programme de recherche soviétique de façon... puisqu'en 49, donc il y a la première bombe russe qui va exploser. Et alors que les Américains, ils avaient prévu qu'il leur faudrait aller au moins 10 ans pour y arriver.
Ouais. Puis j'imagine, on parlait du destin de Fred Hinton, on parlait du destin de Fred Rose. Bon, tous les espions communistes, finalement, ont pas eu des beaux jours sous le soleil par la suite. Qu'est-ce qu'il en est, en fait, de Fuchs? Est-ce que lorsqu'il va se faire prendre, qu'est-ce qui va lui arriver, en fait?
Mais Fuchs, en fait, lui, il va se faire attraper donc, à travers le projet Venona. Donc le projet, en fait, les Américains, ils interceptaient les messages des Russes. Ils n'arrivaient pas à les décrypter. Jusqu'au jour où ils ont réussi, notamment grâce à Goujenko qui leur a donné certaines clés. Mais c'est pas que Goujenko, il y avait aussi des scientifiques, notamment des femmes qui travaillaient dans un laboratoire aux États-Unis, qui ont vraiment accéléré, qui ont réussi à comprendre tous les messages. Et donc là, un Fuchs, à un moment, il a compris qu'il était grillé. Et donc il est allé se livrer, donc là il était en Angleterre. Donc après il va y avoir un procès, il va se retrouver en prison. Puis après il va retourner du côté du bloc de l'Est, donc il va aller en RDA et donc il va continuer une carrière scientifique.
Enfin, finalement, il s'en est mieux sorti que...
Il s'en est mieux sorti que Rose, oui.
Oui, exactement. Alors, en fait, vous avez parlé aussi du projet Tobolev. En fait, les Soviétiques ont également un intérêt pour le projet britannique de développement de l'arme nucléaire via ce projet, ouais, qui déménage, comme vous l'avez spécifié, à Montréal en 1943. Alan nommé l'une des plus grosses prises, en fait, des services secrets suite aux révélations de Goujenko, était impliqué dans ce projet. Et encore là, qui était-il et comment était-il impliqué dans cette affaire?
Alors Alan Nunmay, c'est un personnage fascinant, c'est un Anglais qui a étudié à Cambridge, qui au moment de Cambridge va rejoindre un réseau de communistes et donc va signer une sorte de pacte du sang avec eux en disant bon allez on va s'entraider et puis on va collaborer avec les soviétiques. En fait, Alan Nunmay, très tôt, il va. En fait, il y a il y avait deux Français, donc Hans Alban et Lev Kovarsky, qui étaient donc ils venaient eux d'un labo français de Joliot-Curie où ils étaient très en avance sur le nucléaire. C'est eux qui vont mener le projet de l'Université de Montréal, donc au service des Anglais. Donc c'est vraiment un melting pot, c'est très cosmopolite, hein, comme on l'a dit. Et eux, en fait, ils avaient un assistant. Qui s'appelle Engelbert Broda et lui en fait cet homme il était aussi communiste infiltré tout ça toujours pareil
le même profil.
Même profil et lui en fait il va essayer de ramener d'autres scientifiques dans le giron et donc Alan Nunmay va comme c'est un grand physicien il va se retrouver aussi au laboratoire de Montréal, il va déménager d'Angleterre à Montréal. Il va donc mener des recherches et en plus, comme les Anglais, en fait, ils sont persuadés qu'un Anglais qui a fait Cambridge, il n'y a aucun danger. Alors qu'ils soupçonnent, en fait, ils soupçonnent Hans Alban et Lev Kovarsky parce que ce sont des Juifs d'Europe, donc ils sont persuadés que c'est des communistes cachés. Donc ils n'arrêtent pas d'enquêter sur eux en essayant de comprendre. Et en fait, dommage, c'est Alan Nunmay qui était l'espion qu'il fallait surveiller. Donc Alan Nunmay, lui, il circule librement. Il va même à Chicago, parce qu'à Chicago, il y a Enrico Fermi qui mène des recherches pour la bombe nucléaire. Donc lui, il va accéder à tout. Il va même récupérer de l'uranium des Américains qu'il va donner aux Russes carrément.
Ah oui.
Ouais.
Et comment En fait, avec les frontières, la guerre, comment il a fait pour...
Ben en fait, il va mettre ça dans des éprouvettes. Alors, il se protégeait pas du tout de ces substances extrêmement
radioactives.
Donc, toute sa vie, il va être... il aura des problèmes de santé énormes à cause de ça. Mais il donnait ça à des agents russes.
OK.
Qui récupéraient les produits et les ramenaient en URSS pour travailler avec. Donc, il y a plein d'échantillons qui sont partis... des États-Unis, du Canada, qui sont retrouvés en URSS.
Fascinant. Aussi, ce qui est particulièrement intéressant, justement, de ce numéro de Capot Diamant, c'est, en fait, la relation qu'on tisse entre ces événements et l'anticommunisme religieux et politique au Québec. Et jusqu'à un certain égard, les événements que vous relatez dans cette édition leur donnent, dans une certaine mesure, raison, en fait. Est-ce que ça permet, justement, de relativiser cette peur qui était autrefois interprétée comme étant injustifiée? Je me rappelle que, en fait, tout au long de mon parcours scolaire, on parlait de la peur du communisme comme étant un peu une peur un peu ridicule, mais finalement, lorsqu'on consulte ce numéro-là au Capot Diamant, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi ridicule que ça, non?
C'est une excellente question. C'est très ambigu. En fait, donc effectivement, il y a l'Église catholique qui est vent debout contre le communisme. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais là, il y a des encycliques régulières du pape Pie XI contre le communisme. Eux, en fait, ils savent que les communistes détestent l'idée même de Dieu, de religion. Ils veulent bannir ça, donc forcément, ça leur plaît pas. Ils ont peur que les communistes pervertissent la société. Et ensuite, côté politique, il y a une sorte de collusion, Duplessis, tout ça. Il va y avoir des réunions ici, d'ailleurs, à Québec, avec le cardinal Villeneuve aussi, qui est anticommuniste. Donc, ils font des grands discours anticommunistes. C'est vraiment, ils éditent des brochures contre le communisme. En fait, eux, ils ont peur de ça. Ils ont peur de la perversion de la société. Mais finalement... Moi, d'après ce que je comprends, c'est plus qu'ils avaient peur de ce qui se passait dans la société. Ils comprenaient pas vraiment qu'il y avait un danger côté espionnage. C'est-à-dire qu'eux, ils s'intéressaient au contrôle des esprits, finalement. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que, tout d'un coup, les gens se mettent à devenir communistes et à plus croire en Dieu et avoir être des mauvais citoyens.
Ouais, l'éloignement, en fait, de l'idéologie catholique.
Exactement. Et alors que le véritable danger n'était pas là. Mais ça, c'était aussi un écran de fumée que les soviétiques arrivaient à créer de toutes pièces, et qui est fascinant, c'est qu'en fait, sous couvert de défendre la classe ouvrière, de faire plein d'actions, en fait, leurs véritables objectifs étaient masqués derrière ça. Et donc, finalement, l'anticommunisme, il tombait complètement à côté du véritable danger, quoi. Ouais, c'était impossible à savoir.
On craignait pour, à l'époque, le cinéma qui pouvait déployer des idées communistes, puis finalement, c'était plus les scientifiques qu'il fallait peut-être surveiller de plus près, finalement.
C'est le cas qu'on a parlé tout à l'heure de John Grierson. C'était ça. On avait l'impression que ces films étaient, en fait, il y avait des messages subliminaux qui allaient convaincre les gens de devenir communistes. Donc, c'est ça qu'on regardait, quoi.
Ouais.
Et est-ce qu'on regardait justement les Anglais qui avaient fait Cambridge? Non, en fait, on pensait que c'était sans danger.
Est-ce qu'il y avait une grosse différence entre l'anticommunisme au Québec et dans le reste du Canada, comme au Québec, c'était beaucoup porté par l'Église catholique, ou c'était somme toute similaire?
Par exemple, la Gendarmerie royale du Canada, elle émettait des bulletins, en fait. Donc, dans ces bulletins, on peut lire, ils sont accessibles grâce à un prof de St. John's. En fait, ce qu'on voit dans ces bulletins-là, c'est que la GRC, en fait, elle s'occupe de mater des manifestations de syndicats qui soupçonnent d'être communistes. Ils vont, au moment de la guerre d'Espagne, voir qu'il y a des gens, des Québécois, mais aussi des gens ailleurs dans le Canada qui vont rejoindre le bataillon Mackenzie-Papineau. Pour combattre contre les fascistes. Donc là, ils vont surveiller tout ça, en fait. Donc oui, ils vont finalement, au niveau du Canada, on va regarder, parce qu'il y a beaucoup de juifs d'Europe centrale qui sont dans les provinces à l'ouest. Beaucoup de gens qu'on soupçonne d'être communistes, donc on va aller surveiller tout ce monde là-bas. Oui, il y avait une véritable... Après, une des plus grandes répressions qu'il y a eu d'une manifestation, c'était par exemple à Winnipeg. Donc après, il y a eu la marche sur Ottawa, il y a eu plein de soulèvements sociaux comme ça. Et oui, on surveillait au-delà du Québec. Hein. Il y avait vraiment une prise de conscience là-dessus, mais qui était vraiment sur les mouvements sociaux, comme un peu on a dit tout à l'heure. C'était pas du tout sur les scientifiques et les actions des gens infiltrés dans la bonne société.
Justement, comme vous parlez de répression, l'anticommunisme se traduit aussi en répression policière, évidemment. Comment les policiers du Québec sont équipés pour répondre à l'espionnage communiste en particulier?
Ils sont mal équipés. En fait, je pense qu'à l'époque, il y a la fameuse loi du cadenas en 37, avec Duplessis. La loi du cadenas, en fait, elle n'est pas appliquée tout de suite parce que c'est compliqué. Puis c'est plus, en fait, ils vont aller, il y a le fameux magazine Clarté, là, qui va, ses bureaux vont se faire fermer. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est surtout que c'était un peu de la poudre aux yeux, quoi. C'est-à-dire qu'on voulait rassurer le public, donc on faisait des grandes interventions avec beaucoup de journalistes qui prenaient des photos. Comme avant, on faisait la même chose pour les maisons closes. Là, c'est ça, on ferme des magazines communistes, c'est sympa, ça rassure tout le monde. Mais est-ce que ça avait vraiment... Est-ce que la police va faire la chasse aux communistes? Il va y avoir plein d'arrestations. Fred Rose et Sam Carr, par exemple, ils vont aller en prison plusieurs fois. Donc, et puis, vraiment, ils font plusieurs mois de prison comme ça parce qu'ils ont été à des manifestations, ils se font attraper. Donc oui, ils les arrêtaient, mais ils les arrêtaient pas pour les véritables raisons. Ils les arrêtaient parce qu'ils faisaient des manifestations, parce qu'ils soulevaient les ouvriers, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des grèves. Mais une seconde, ils se doutaient que Sam Carr et Fred Rose, ils manipulaient autant de gens. C'était même pas imaginable. Donc ils n'étaient pas vraiment outillés. Et puis de toute façon, est-ce que les gens l'étaient vraiment dans les autres pays? Quand on regarde les Anglais, quand même, s'étaient fait infiltrer à un niveau. Enfin, le responsable de la lutte anticommuniste des services secrets anglais était lui-même communiste, était un agent double, c'est Kim Philby. Donc je pense qu'on n'a pas vraiment de... On ne peut pas être jaloux, quoi.
Non, ça fait que finalement, on ne peut pas vraiment reprocher aux services secrets canadiens de ne pas avoir été alerte face à ce danger-là que finalement, qui n'était même pas sur leur radar, finalement.
Je pense que non, il n'y avait pas vraiment de... ça aurait été très compliqué de prendre conscience de tout ça. Maintenant, avec Yannick Cormier, un des autres auteurs, on prépare une étude où on va montrer, j'espère, que en fait, il y avait des réseaux d'espionnage communiste qui étaient présents depuis très longtemps dans la province.
Ok, avant même.
Ouais. Okay. Bien avant toute cette histoire. Donc, j'espère que ça sortira bientôt. Et en gros, là, on peut voir qu'en fait, oui, il y aurait pu avoir des soupçons, mais en fait. Il y avait un manque de coordination entre les États-Unis, le Canada, l'Angleterre. Il y avait une non-préparation. On regardait ailleurs. Donc oui, on peut pas juger. En tout cas, maintenant qu'on connaît la fin, on peut pas juger en disant vous auriez dû mieux travailler, les gars. Non, ça.
Non, c'est ça.
Ça marche pas.
Mais justement, c'est une des questions que j'avais en tête, parce que depuis tantôt on parle de ça, puis ça nous semble invraisemblable à quel point c'était un tissu, en fait, un véritable nid d'espions, en fait. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment la population a réagi suite à la révélation de l'affaire Goujenko. Comment l'opinion publique s'est manifestée? Est-ce qu'il y a eu des manifestations? Est-ce que finalement c'était tellement hors du commun que ça a passé sous le radar? Quelle était la réaction?
Mais la réaction, en fait, c'est assez... Bon, alors, dans les quotidiens du Québec, bon, que ce soit Le Soleil, l'Action catholique, la presse, Devoir, n'importe quoi, on peut voir que, oui, il y a vraiment... Les journalistes voient ça comme un drame.
Ouais.
Mais en gros, ils disent, bon, regardez, de toute façon, vous avez prévenu, hein, les communistes, ils sont à la solde de l'URSS, on le savait, donc bon, ils tombent pas des nues. On voit qu'il y a un anticommunisme profond. Mais en fait, quand il va y avoir les procès de l'affaire Goujenko, ce qu'on voit, c'est que par exemple Raymond Boyer, il va avoir une série de procès parce que les jurés ont du mal à se décider sur sa culpabilité réelle. Donc finalement, il n'y a pas une réaction, je trouve, d'un point de vue. Bon, il va quand même faire 2 ans de pénitencier. Fred Rose, on l'a dit. Puis il y en a d'autres qui vont être condamnés, mais c'est pas non plus des peines comme les Américains vont infliger à leurs espions. Ouais, les époux Rosenberg, ils sont morts, ils ont été, condamnés à mort. Fuchs, il a fait beaucoup de temps en prison. Harry Gold, enfin, il y en a beaucoup qui ont des espions qui vont finir dans les geôles américaines et pour qui ils vont faire des grandes peines. Là, ici au Canada, c'est pas vraiment le cas. Donc, il y a pas non plus les gens ont pas non plus surréagi, quoi, je dirais. C'est en fait, je crois maintenant a posteriori, en relisant les événements, c'est que l'opinion publique et même Kellogg Taschereau, la commission, les services n'avaient pas vraiment réalisé à quel point l'espionnage des Russes était coordonné en fait à travers le monde. Et ça, je pense que c'est une des choses qu'on a montré à travers ce capot diamant là. c'est qu'on a relié Klaus Fuchs à Montréal, alors qu'avant ça s'était pas fait. On a relié l'espionnage de ce réseau Goujenko au réseau américain, alors que ça c'était vraiment pas fait. Par exemple, on a montré qu'il y avait un autre américain qui travaillait sur le RDX en parallèle de Raymond Boyer, qui avait aussi donné des échantillons. Donc on voit que les Américains et les Canadiens travaillaient de manière coordonnée, qui communiquaient, et donc que les Russes étaient vraiment infiltrés à tout niveau. Mais je pense que les gens n'avaient pas conscience à l'époque. Et même ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Comme je vous l'ai dit, c'est ça. Je pense que c'est nous qui l'amenons avec ce capot diamant-là, avec le travail qu'on a fait. Et donc, je pense que les gens auraient été beaucoup plus sévères s'ils avaient compris qu'en fait... l'excuse numéro un, quand il y avait les procès, c'était de dire « Ouais, mais regardez, les nazis étaient là, ils étaient aux portes des grandes villes russes, et c'est vrai. Et ils ont massacré des Russes, c'est vrai. Et les Russes étaient en difficulté, ils ont failli vraiment tout perdre. » Donc c'était normal de les aider. Donc les gens se sont dit, les soviétiques nous ont espionnés, mais finalement c'était pour se sauver. Donc c'était un peu ça l'excuse du moment. Ouais. Alors qu'à mon avis, c'était pas exactement ça qu'ils avaient en tête les Russes, mais ça c'est un autre problème.
En fait, en quelques mots, quelles ont été les conséquences à long terme de la révélation de ce nid d'espions communistes, au final?
Au final, par exemple, si on prend le cas de Goujenko, c'est assez intéressant, c'est que cet homme, il a dû vivre dans la clandestinité avec sa famille pendant des années. Par exemple, il y a des gens qui ont... Donc, il habitait sur Somerset, à Ottawa. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, parce qu'ils ont considéré que c'était un héros, qu'il avait réveillé le monde entier pour montrer le danger communiste. Que lui, Goujenko, et son discours, c'était de dire « Ouais, mais en fait, les soviétiques vont pas s'arrêter là. Ils veulent conquérir l'Europe. » Bon, alors, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on peut se dire « Waouh, c'était prémonitoire. » Et donc, lui, Goujenko, il y a beaucoup de gens qui ont considéré que c'était un héros. Mais par exemple, le fait qu'il y ait une plaque sur sa maison à Somerset pour rappeler que cet homme avait eu le courage de faire défection et d'amener les documents, en fait, cette plaque-là, elle est venue extrêmement tardivement. Parce que les autorités fédérales avaient peur que les Russes se vexent, le prennent très mal et que ça crée un incident diplomatique. Mais même des décennies après. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement sensible.
Ouais.
Et que ces affaires d'espionnage, il y a encore énormément de choses qu'on n'a pas sorties des dossiers. Et que c'est pour ça qu'on est là à en parler.
Ouais, exactement. Donc en fait, malheureusement, c'est déjà tout le temps que nous avions. 3600 secondes, ça peut sembler beaucoup, mais finalement, c'est très court. Merci beaucoup, Sylvain Lombroso, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un grand plaisir.
Merci à vous deux.
Pour nos auditeurs, pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer dès ce printemps le numéro 149 de la revue Capot Diamant intitulé « Le Québec, nid d'espions communistes ». De plus, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission ce soir, vous pouvez le faire désormais sur des plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts ou encore Spotify. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre page Facebook pour commenter, réagir et suivre toutes nos émissions. Je profite aussi de l'occasion pour rappeler aux étudiants de deuxième cycle que vous avez désormais jusqu'au 29 avril afin de soumettre une proposition pour le 74e congrès de l'Institut d'histoire d'Amérique française. Le thème de cette année est « Les gens en Amérique française, contacts, conflits et collaboration » et le congrès aura lieu du 20 au 22 octobre à Québec. C'était Lucie Arbeau. Merci, Lucie, d'avoir
Merci,
été là avec
Marc.
Moi. Je tiens aussi à remercier Amy qui était à la console ce soir. Sans toi, on n'aurait pas été entendu. Donc, c'était un plaisir de travailler avec toi ce soir. Avant de vous quitter, allons-y avec une pièce musicale. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La première test de l'URSS a lieu en août 49. Donc, à ce moment-là, la pièce numéro un au Québec était Maître Pierre de Lucille Dumont. Donc, laissons-nous avec cette chanson et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3100 secondes d'histoire. Bonne soirée.
Il fait bon chez vous, Maître Pierre. Il fait bon dans votre moulin. Le froment vole dans la lumière et partout. Ça sent bon le grain. J'avais 12 ans et j'étais rond comme trois pommes. Quand me voyant, vous me disiez d'un ton bonhomme. Voyez-moi ce sacré petit drôle. Le métier lui semble à son goût. Prends ce sac, mets-le sur l'épaule. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardy, hardy petit gars, bonnet sur l'air. un bon meunier ne s'arrête pas. Il fait bon chez vous, maître Pierre. Je me souviens de mes 18 ans. Votre...
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie, j'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Pour ne rien manquer des nouvelles culturelles à Québec, rejoignez-moi et mon équipe pour parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
À la recherche de recommandations de séries, de films, de jeux vidéo et de tout ce qui touche le divertissement, rejoignez Anthony et moi-même qui ferons des critiques et des recommandations en plus de capsules d'actualité. Salut Anthony.
Salut Pierre-Olivier.
Prêt pour cette saison?
Absolument. Deux gars qui critiquent leur fin de semaine vous attendent le mercredi à 10h sur Chiz 94.3.